Je vous écris pour vous signaler que mon père a disparu depuis le 3 juillet.
Ah bah c'est la merde des vieux, ça intéresse personne. Je vois pas pourquoi ça m'intéresserait moi sous prétexte que je suis nulle à l'écrit.
Tu préfères qui ? Eux ou moi ?
Et ton père ?
Toi ? Ingrate.
T'as des nouvelles ? Il va mieux ?
Par les temps qui courent.
Elle n'aime pas répondre à des questions sur sa
famille. Je suis...
ta maman !
Marie Rich.
On n'a qu'une maman !
La famille, c'est sacré et on n'a qu'une seule maman. Voilà ce que serine une mère, pas ce qu'il y a de plus modèle à son fils et à sa fille qu'elle ne voit que par intermittence. Une mère fuyante, rebondissant de mensonge en mensonge pour couvrir, on le comprend rapidement, ce qu'on peut appeler une mauvaise action. Mais votre dernier film met aussi en scène cette femme qui rêve d'une autre vie que la sienne et est littéralement prête à tout pour se l'offrir. Ça va pas exactement se passer comme elle entend, l'opiniâtreté de sa fille et un autre sens de la famille vont faire dérailler ses plans. La fille d'Albino Rodrigue, c'est le titre de votre deuxième long métrage. Il sort en salle ce mercredi 10 mai. Bonsoir Christine Doré.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Signalons qu'Émilie Dequesne, qui joue la figure de cette mère, sera l'invitée des collègues d'affaires culturelles sur France Culture. Ce sera demain, mardi 9 mai. Alors j'ai devant moi, comme tous les soirs, un dossier avec une revue de presse, des articles, un dossier de presse, etc. Puis il y a un papier qui a été écrit au moment du tournage dans le village où vous avez tourné, Christine Doré, qui signale un film, mais c'est pas le même titre. C'est La mort d'Albino Rodrigue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous avez changé de titre en route ?
Oui, j'ai changé le titre parce que j'ai fait évoluer le film au montage par rapport au scénario. C'est-à-dire que, de la même façon, si vous regardez le générique, il y a un personnage, il y a un acteur qu'on voit pas, c'est Albino, qui a été un personnage du film jusqu'au montage, et puis on a décidé de changer le point de vue du film et de le resserrer sur Rosemée, donc Galatea Bellucci. Et de cette façon,
vous êtes passé du père à la fille.
Voilà, enfin, non, c'était il y avait deux points de vue, la mère et la fille. On a resserré sur la fille. Mais il y avait des scènes entre la mère et le père. Et à partir du moment où on ne voyait plus le père et un certain nombre de choses à son sujet, sa mort devenait l'objet d'un suspense, le film ne pouvait plus s'appeler « La mort d'Albino Rodrigue ».
Alors en tout cas, on part de la mort d'Albino Rodrigue comme ça au moment du tournage pour aller à la fille d'Albino Rodrigue. Ça nous renseigne aussi sur la manière dont vous travaillez, Christine Doré. C'est-à-dire qu'il y a une écriture très, très forte qui se passe à la fois au scénario et dans un second temps, quitte à beaucoup bousculer les choses, au montage, c'est vraiment là pour vous l'écriture du film ?
Non, je dirais pas ça. Je pense que ce qui se passe entre le... Si vous voulez... Le scénario qu'on tourne, déjà, il est l'aboutissement d'un retravail qui se fait bien souvent un peu trop tard, qui fait qu'on n'a pas un recul suffisant sur ce qu'on fait ou sur ce qui pourrait manquer. Et après, le montage, c'est l'épreuve de réalité. Voilà ce qu'on a fait. Ça marche ou ça marche pas. Il y a des choses qui marchent pas. Et donc, ça nous oblige, ça nous contraint à réécrire.
Voilà, avec le réel, quoi.
Avec le réel, voilà.
Avec ce que vous avez, la matière que vous avez
voilà,
sous la main.
La matière, elle dit ça. Quoi. Eh bien, faut faire avec ça. Il n'y a plus dedans. Voilà. C'est d'ailleurs un des exercices les plus difficiles de ce métier de réalisateur, c'est de regarder les rushs.
Vous faites ça seul ou avec un monteur ou une monteuse ?
Je fais les deux. D'abord, je les regarde seul. Et après, je les regarde avec la monteuse Saskia Berthaud.
Comme ça, on lui fait un signe et on rend hommage à son travail. Alors, quand on commence, eh bien, c'est un moment d'obscurité. On ne sait pas trop si on est au tout petit matin ou alors très très tard la nuit. Et ça expose les choses. On est dans une maison.
Je savais que je pouvais compter sur toi.
Comme si j'avais le choix.
Ça va, t'es un grand garçon.
Que t'as menacé de balancer.
C'est ce que j'ai dit, mais je l'aurais pas fait. Parce que... je suis ta maman. Et on n'a qu'une maman. Rosemée, qu'est-ce que tu fais là ?
Je viens pour les vacances, comme d'hab.
Qu'est-ce qu'elle fait là ?
Je sais pas. Je savais pas, moi, qu'elle allait arriver si tôt. Personne m'a rien dit.
Valérie a appelé. Pili devait venir me chercher à la gare. Il est où, Pili ?
Bonne question.
Il y a un petit sourire dans la voix d'Emily Deken, qui est donc la mère biologique de Rose May. On est dans sa maison, elle est entourée de ses deux enfants. C'est un premier trio où le père est déjà là comme la figure de l'absent, parce que juste avant, Rose May a attendu quelqu'un qu'elle appelle Pili à la gare de Metz. Et on va petit à petit comprendre que ce Pili est le père biologique de Rose May. Cette scène inaugurale, elle nous permet comme ça de placer les trois personnages quasiment dans une économie du récit qui va perdurer jusqu'au bout, Christine Dory. Alors allons-y, présentons-les. Comment est-ce que vous parleriez de cette femme interprétée par Emily Deken?
Ah, c'est l'incarnation du mal. Mais elle est totalement dépourvue de culpabilité. Elle est désinvolte. Elle ne fait aucune manière, d'aucune sorte. Elle est franche, d'une certaine façon. Elle ment, mais elle a une espèce de désinvolture, comme ça. Et qui fait qu'elle est très difficile à attraper. C'est difficile de se positionner vis-à-vis d'elle. D'autant qu'au cours du film, elle n'est pas rachetée, d'aucune façon. Elle n'a aucune excuse. Elle n'est pas sauvée. Aucune morale ne vient enrober ou donner un éclairage sur sa monstruosité. Donc, c'est un personnage qui fait tomber les commentaires, qui... c'est ce que j'ai voulu faire. Après, la mise en scène, surtout, soutient ça, puisque cette Marga... on ne la voit que à l'intérieur de la maison, dans cette maison, qu'elle inonde de sa toxicité, et elle s'évade de tous les plans. C'est-à-dire, on la filme, elle sort du champ, et on ne la suit pas. C'est-à-dire que pour la récupérer, il faut changer de plan. Donc on a fait ça de façon assez systématique, parce que Marga, c'est celle qui se barre. C'est celle qui se barre.
Et qui ne rêve que de ça. On la voit bien plus tard dans le film, en train de rêvasser devant des espèces d'images de vacances à Ibiza, oui. Avec une espèce de musique comme ça, très très loin finalement de la réalité dans laquelle elle baigne. On a l'impression qu'elle veut tout le temps se barrer, quoi.
Oui, c'est ça. Elle veut se barrer. Elle veut échapper à sa vie qui ne lui convient pas, qui n'est pas en adéquation avec ses rêves.
Et s'il y avait, vous dites, elle n'est jamais sauvée, elle n'est jamais justifiée, on va dire que s'il y avait une façon d'expliquer les gestes, que ce que ne tente pas le film, et les gestes qu'on ne va pas non plus détailler, qui est un acte mauvais, on parlera du bien et du mal tout à l'heure justement, eh bien ce serait ça, hein, ce serait ça, le désir absolu, totalitaire presque, de ne pas vivre la vie à laquelle elle serait prisonnière, enfin dans laquelle elle serait prisonnière. On peut dire ça, Christine Dory ?
Oui, c'est ça. Elle ne perd pas espoir de s'en évader.
Autour d'elle, dans cette scène d'exposition, il y a un fils qui est une figure à peine esquissée, mais qui est une figure importante. Comment est-ce qu'on peut parler de lui ?
Lui, c'est vraiment la victime. C'est-à-dire qu'il est manipulé par sa mère. On comprend qu'il a échappé à la prison en partant à la Légion. Qu'il a donc commis un crime précédemment.
On comprend qu'il baigne dans un truc un peu louche avec sa mère là, au début du film.
Oui, on comprend bien sûr qu'il baigne dans un sale truc, qu'ils ont tous les deux peur de voir débouler Rose May au milieu de la nuit, qui les a entendus en fait depuis sa chambre. Et on se dit que c'est limite de les prendre en flagrant délit de quelque chose. Et en même temps, on comprend rien. C'est les deux. C'est-à-dire, on sent tout et on comprend pas grand-chose. Et de surcroît, on n'est pas sûr que que Marga soit la mère de Galatea. On se demande si ce n'est pas sa belle-mère.
Oui, parce qu'elle est là, qu'est-ce que tu fous là, alors qu'on est dans la maison, je viens pour les vacances, ah bon, mais c'est qui? Du coup, il y a une espèce de flou, en effet. Et c'est quelque chose que vous entretenez, Christine Doré, dans la réalisation et dans l'écriture, aussi parce que on est vraiment du côté de Rosemey, qui va, elle aussi, avoir du mal à comprendre. Elle aussi, elle va avancer en se demandant ce que dit la mère, pourquoi est-ce que son père ne vient pas la chercher bon, c'est pareil, on se dit que c'est le père, mais on ne sait pas exactement qui est censé venir la chercher à la gare de Metz. Petit à petit, il va y avoir un phénomène d'élucidation de la part du personnage de Rosemey. Alors parlons-en, puisque c'est la dernière qui forme le trio de cette scène d'exposition et qui est comme le grain de sable qu'on n'avait pas trop envie de voir débarquer dans le rouage. Qui est cette jeune fille pour vous? Ou comment parler d'elle?
Ah, c'est... Ben, c'est à elle qu'il arrive quelque chose. Donc c'est un vrai personnage principal, voilà. C'est une jeune fille qui a probablement été élevée dans un monde qui sans repère, où le vrai et le faux ne sont pas différenciés, où on ment comme on respire, que tout le monde transgresse. On apprendra par la suite que son père lui envoie des cartes postales de femmes à poil. On sent bien qu'il n'y a pas de limite, que ça ne va pas et que c'est pour ça qu'elle a été placée. Donc elle n'a pas de repère. Et donc elle n'a aucune confiance en elle. Et progressivement, elle va apprendre à se faire confiance. Elle va apprendre à lire, à écrire et à se faire confiance. Et elle ira jusqu'à... Enfin, et elle va vouloir sauver sa peau, c'est-à-dire... pouvoir entrer dans un monde où il y a des différences entre le vrai et le faux, où le réel, ça existe. Le monde n'est pas l'accomplissement de désirs farfelus. Non, il y a une réalité et son intérêt, c'est de le comprendre.
Cela lui sera d'ailleurs dit très droit dans les yeux par un personnage qui n'apparaît que succinctement, mais qui a un rôle fondamental dans le parcours du personnage de Rosemey. C'est une juge, et c'est une femme, et c'est elle qui mettra la limite, et on sera à la toute fin du film, Christine Doré. Alors vous dites, en parlant de Rosemey, c'est bien elle le personnage principal, parce que c'est à elle qu'il arrive quelque chose. Vous avez réalisé un premier long métrage il y a quelques années, et entre-temps vous avez aussi beaucoup écrit cette activité de scénariste. Justement, vous qualifier les choses de cette manière-là, quand vous êtes en train de modeler la matière scénaristique, c'est bien, il faut déterminer qui est le personnage principal, à qui il arrive quelque chose, comment ça se passe.
Oui, c'est une bonne question de se poser cette question, parce que c'est pas évident, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Quand on s'intéresse à une histoire.
Oui, c'est pas forcément évident qui est le personnage principal, mais c'est toujours celui à qui il arrive quelque chose.
Ça, c'est la bonne définition.
Je pense.
Il arrive quelque chose au personnage
principal. Il lui
arrive
quelque chose. Voilà, il lui arrive quelque chose. Et le film va raconter comment ça lui arrive.
Elle oscille entre deux cellules familiales, on comprend petit à petit. Sa cellule, on va dire, biologique, qui est cette espèce de maison, là, dont il faudra aussi parler, parce qu'il y a tout un paysage. Et puis une autre famille, dont on comprend que c'est une famille d'accueil. La famille étant un des termes très utilisés, finalement, par tous les personnages. On va écouter le réalisateur Xavier Dolan en parler.
La famille qui est un lieu, en tout cas, où il y a l'incommunicabilité de partager les choses qu'on ressent, et vouloir dire je t'aime, mais finalement crier je te déteste. C'est pas juste que j'apprécie dans le dialogue et puis dans la langue l'hystérie, mais j'aime effectivement les gens qui sont hauts en couleur, qui n'ont pas l'aptitude de bien s'exprimer, de trouver les bons mots pour se raconter, pour se décrire, pour dire leur souffrance, en fait. Je pense qu'il y a autant de personnages de mères qu'il y a de femmes sur la planète. C'est toujours une nouvelle histoire parce que ce sont de nouveaux individus, des nouveaux quartiers, d'autres classes sociales, d'autres époques.
Ton père, toute sa vie, il m'a fait des promesses. Qu'on mènerait grand train, qu'on aurait la belle vie, qu'on irait à l'étranger, à Ibiza. Tu parles. On n'est jamais sorti de ce trou, à part pour aller voir sa mère au Portugal. J'aurais dû faire comme ma mère qui nous a plantés quand j'avais 2 ans. Elle, au moins, elle a vécu sa vie. Ouais, j'espère pour elle. Je sais pas ce que j'ai vécu avec mon père, ce vieux cochon, son abruti de fils et leur copain. J'étais leur boniche.
Je sais, tu me le dis tout le temps.
Faut que tu saches la chance que t'as eue.
La chance? Vous me laissez toute seule à l'hôtel, j'allais jamais à l'école.
L'hôtel s'est arrivé une fois et il a fallu que cette connasse d'hôtelière prévienne la ZEU.
Non. C'est pas arrivé qu'une fois. Hein.
Mais si. Ouais.
C'est un dîner de famille un peu particulier, tête à tête entre la mère et sa fille, Christine Dorry. On entendait Xavier Dolan parler de ce que permet la famille comme écriture de dialogue, comme rapport au personnage notamment de la mère. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette notion-là qui est au cœur de quasi tous les dialogues?
Alors, vous croyez? J'ai pas fait gaffe.
Franchement, c'est impossible de répondre ça. Il est question de famille quand elle parle entre elles deux. Oui, il est question de famille quand elle parle avec son frère biologique. Ouais. Il est question de famille quand elle parle avec la petite fille qui débarque dans la famille d'accueil. Il est question de famille quand elle parle avec les parents qui l'accompagnent. Il est même question de famille avec les flics quand il est question de témoigner pour ou contre la mère, etc.
C'est vrai.
C'est une notion qui est hyper discutée quasiment dans tous ses aspects, jusqu'à des aspects inventifs. C'est-à-dire, c'est quoi la famille qu'on peut réussir à faire tenir debout, de briques et de broc, même quand ça semble flancher de toutes parts.
Oui, c'est-à-dire chacun exploite à sa façon la notion, une certaine idée de la famille. Mais la vérité qui est dite, c'est dans la scène sur le cheval où il y a Rosemay et sa petite sœur, Socha. Et Socha lui dit « Quand est-ce qu'il va revenir, Manuel ?» Le frère, donc. Il dit « Je ne sais pas s'il va revenir. Et est-ce que c'est mon frère à moi aussi ?» Et là, Rosemay lui répond « Eh bien, c'est ton frère, puisque c'est le mien et que tu es ma sœur. »
Alors qu'elles ne sont, entre guillemets, que accueillies dans la même famille d'accueil.
Voilà, c'est ça. Mais donc, cette logique tordue, c'est finalement celle qui produit la phrase la plus sensée, la plus juste.
Et qui est une façon aussi, pour cette jeune fille, de dire ou de comprendre petit à petit, puisque vous parliez tout à l'heure de son parcours, Christine Dorry, que l'endroit de la famille, ce sera bien l'endroit où elle réussira à bâtir des liens peut-être plus sensés, plus tissés d'amour que l'endroit biologique.
Bien sûr, d'autant qu'elle a une famille d'accueil. Moi, j'aurais adoré que ce soit... J'aurais adoré être élevée par Romane et Samir. Ils sont super.
Ce sont les deux comédiens qui interprètent les parents d'accueil.
Voilà, ils sont... super intelligent, drôle, vivant.
Aimant.
Et en même temps, ils font aucun débordement, ils sont pas sentimentaux, pas du tout.
Il lui fiche des coups de pied aux fesses quand il
faut. Oui, il lui coupe la parole, il lui dit ta gueule, voilà. Mais ils sont droits. Voilà.
Il y a quelque chose ici dans cette notion de famille, Christine Dorry, qui éclaire aussi tout un rapport au crime. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit, l'absence d'Albino Rodrigue, ça va être le suspense. C'est aussi un film qui a cette trempe-là, quasi western, puisque vous parliez des chevaux. Et toute la, comme on dit, la notion dans le crime de fidélité à la famille, quoi. À qui on va trahir et qui on va suivre.
Bien sûr, Rosemay est dans un conflit de loyauté.
C'est bon que je cherchais.
C'est la nature de son conflit. Est-ce que je vais épargner ma famille comme ma mère me le demande en disant la famille c'est sacré, ou est-ce que je vais chercher un truc que je connais pas, la loi, la vérité, le réel, etc. Est-ce que je risque de trahir les miens pour ce truc que je connais pas? Mais qui a l'air de valoir le coup.
Voilà. Parce qu'elle a cette intuition qu'on ne dit rien de la disparition de son père, mais que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on essaye de lui faire croire. Oui. Et donc, elle va finalement mener son enquête, mener son bout de chemin, croire dans ses convictions, dans ce qu'elles sont d'abord confusément, et puis ensuite qui devient comme ça corroborée par qui l'hôpital, qui la police, etc. etc. Et donc, elle va cheminer comme ça, parfois à cheval, parfois en regardant par la fenêtre. Il y a différents paysages qui s'impriment. C'était quoi l'importance justement de cet endroit où vous tournez, Christine Dorry? La maison, vous en avez parlé, et le reste?
Oui, le paysage, il est très important. Alors, bien sûr, on a fait des repérages et on a cherché une maison qui avait cette vue par la fenêtre de la chambre de Rosemay.
Qu'il faut décrire peut-être, cette vue?
Oui, si vous voulez, je voulais tourner en région Rhône-Alpes, dans la banlieue de Saint-Étienne où j'ai grandi, pas parce que je voulais parler de moi, mais parce que j'aimais ces paysages post-industriels qui ressemblent à quelque chose entre une décharge publique et un terrain vague, où on sent profondément une certaine France qui a abandonné des territoires, qui a abandonné des gens, qui a abandonné des professions. La France centralisée, voilà, donc c'est une réalité de la France qui est assez forte et que j'ai retrouvée complètement en Grand Est, dans la région, dans la vallée ArcelorMittal, ces paysages désolés, et c'est pas tant pour ramener une couleur sociale dans le film, parce que c'est pas un film social et j'ai pas du tout cherché à faire ça, mais de montrer comment un paysage infuse sur une ambiance, sur une couleur générale du film, et aussi comment, se baladant dans ce paysage, on se dit, ah bah oui, ceux qui ont grandi là, ça va être dur de s'en sortir, ça va pas être facile, il va falloir se battre très fort, quoi, bien armé. Ouais, c'est un paysage. Donc, ce qu'on voit par la fenêtre de la chambre de Rosemey, qui a d'ailleurs été transformée en pièce pour le linge, c'est un paysage de jardin ouvrier avec une énorme usine au fond. On voit, il y a de l'herbe qui pousse, il y a des poules. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est un peu indéfinissable. Et c'est à la fois beau et triste.
Et justement, quand vous dites que ça permet d'imprimer une ambiance, une couleur au film, comment est-ce que vous en avez parlé avec vos collaborateurs, vos collaboratrices? Vous cherchiez quoi exactement?
Ben, j'avais dit au repéreur Mathieu Lemley, qui est le repéreur avec qui j'ai fait mes trois films, il est super, très fort. Et je lui avais dit, tous les décors que tu vas trouver, que tu vas chercher, il faut qu'on ait l'impression que ce soit l'arrière de quelque chose. Le côté des poubelles, l'arrière des bâtiments, l'arrière du paysage, l'arrière de l'usine, là où les herbes poussent, là où c'est pas fait pour être regardé. Donc ça, c'était la ligne générale. Après, il a fallu travailler dans le détail. On resserre de plus en plus les lieux qu'on regarde. Mais voilà, c'était la grande ligne.
Dans cette archive, Xavier Dolan parle aussi du personnage de mère qui a autant de personnages de mère que de femme qu'il le serait devenu. Il y a quelque chose quand même qui est assez intéressant dans cette femme que vous filmez, qui est interprétée par Émilie Dequesne. C'est en effet son côté insaisissable, vous en avez parlé en parlant de la manière dont elle échappe au plan. Mais peut-être qu'elle échappe aussi à plein d'autres choses, c'est qu'elle échappe au jugement du bien et du mal, et puis à l'idée de la mère qui aimerait ses enfants à tout prix. Il y a vraiment quelque chose qui campe un drôle de personnage de mère.
Oui, mais parce qu'on a des idées très arrêtées sur ce que doit être une mère. Elle dit elle-même, d'ailleurs on l'a entendu dans le montage sonore, elle dit « j'aurais dû faire comme ma mère qui s'est barrée quand j'avais 2 ans ».
Elle a vécu sa vie, elle, au moins.
Elle au moins, voilà.
J'espère, dit-elle ensuite.
Ouais. Voilà, elle dit ce qu'elle pense, mais elle ne dit rien de fou. Moi, quand je l'ai écrit, ça a été libérateur pour moi, ça m'a fait du bien d'écrire ça. Je me disais, qu'est-ce que ça serait chouette de pouvoir, par exemple, se débarrasser des gens qui nous ennuient, on les tue, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Ça serait agréable.
Mais il y a le bien et le mal.
Voilà, ça c'est un vrai problème, ça vient foutre la merde partout.
Mais il y a quelque chose, en effet, hein, quand vous dites de regarder là où on ne regarde pas, ça va regarder dans des endroits peu aimables de cette mère. C'est quelque chose qui ne s'encombre pas, dans un premier temps, de la morale.
Oui, ni de la morale, ni du fait d'avoir besoin d'être sympathique. Elle n'a pas besoin d'être sympathique, elle s'en fout.
La soupe de ma maman est bonne, même sans condiment. Sans elle, je n'aurais pas grandi la vie. Elle ne m'aurait pas souri. On a tous le choix d'en rire ou de ne penser qu'au pire. Ma mère, elle m'a dit, ma puce, surtout avance.
pas dire que Sandrine Bonnaire a été une tellement extraordinaire, on peut pas dire comédienne, elle avait à peine 18 ans. Elle avait déjà tourné d'ailleurs avec À nos amours, avec Piala. Mais elle était tellement présente, tellement tendue dans sa propre jeunesse révoltée comme ça. C'était un plaisir de travailler avec elle. On s'est revus récemment. Et c'est vrai que le cinéma avec des acteurs, c'est passionnant quand les acteurs deviennent le personnage. C'est même pas qu'ils le jouent.
Un jour, je te montrerai comment on les hypnotise. Petit agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est pas mignon?
Tu peux le porter?
Non.
Je pourrais dormir avec lui?
Oui, pourquoi pas. Mais il faut que t'en profites parce qu'on va bientôt le manger. C'est quand ton anniversaire?
Le 15 avril. On va le manger pour mon anniversaire?
À moins que tu sois rentrée dans ta famille d'ici là. T'as une famille? Tu sais, les gamines comme toi, elles restent pas longtemps ici. Faut du cran pour tuer les bêtes avec les mains. Les poulets, les lapins, les agneaux. Et si toi, t'as de la morve.
Rosemet, c'est toi qui as mis l'agneau dans le lit de Sacha?
Quel agneau?
C'est pas elle qui est allée toute seule la nuit à la bergerie. J'y crois pas, c'est toi! Reconnais, s'il te plaît. Oh, ça pue.
C'est toi qui pue. Mais non, je reconnais rien du tout, j'ai rien fait.
Si tu comptais faire punir ce chat, c'est raté.
Rosemet qui accueille à sa façon la petite Zosha dans la famille d'accueil dans laquelle elle vit, elle, depuis quelques temps. C'est le personnage principal de votre film, Christine Dory, le film qui s'appelle La fille d'Albino Rodrigue. On en parle avec vous. Alors, on entendait Agnès Varda parler de Sandrine Bonnaire et de son Antoine Ilois et de la révélation que c'est de tomber sur la bonne actrice qui devient le personnage. Il y a quelque chose d'assez fort dans la manière dont vous filmez Galatella Bellucci. On sent que vous l'avez trouvé, vous aussi.
Oui, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça, parce que j'ai cherché pendant un an. Et quand j'ai rencontré Galatella, c'était elle la première fois, tout de suite.
Qu'est-ce que ça veut dire chercher, alors? Comment ça se passe? Vous avez écrit un personnage, vous avez dit tout à l'heure qu'elle était le personnage principal parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Et vous faites quoi? Vous faites des castings sauvages? Vous faites passer des essais?
Oui. Oui, oui. On a un an, on a cherché. Casting sauvage, bien sûr, j'ai vu toutes les jeunes comédiennes qu'on connaît. Du moment, voilà. Et puis, je repoussais le moment de voir Galatella, et qui était un peu plus âgée que le personnage. Et puis je l'ai vu quand même, et c'était absolument évident. Mais ça me touche vraiment d'entendre Varda, parce que Antoine Ilois, c'est le film de référence de mon film. C'est celui que j'ai montré à Galatella. La façon dont elle filme le corps de Sandrine Bonnaire dans des paysages, dans des plans larges, ça, sa saleté, ça. Voilà, c'était, et même le paysage lui-même, c'était une référence aussi pour moi.
Une référence, ça veut dire que vous le montriez à Galatella Bellucci, mais aussi à l'équipe en disant, j'aime ça, je veux aller vers ça, ou voilà ce qui me touche.
Oui, oui, voilà. Et il y a même une scène qui a été coupée au montage, qui était une pure citation de Antoine Ilois, le garçon qui la transporte à moto. Il se rend compte dans le bar juste avant.
Oui, c'est assez mystérieux, cette scène.
Oui, parce qu'elle est coupée, mais il lui proposait de lui offrir un pain au chocolat. Elle disait, je pourrais avoir un sandwich plutôt. Et ensuite, on la voyait, et c'est une scène de Antoine Ilois.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce film de Varda?
La proximité de la terre. La concrétude des corps, du paysage, le fait que le film est pas sentimental, il est brut.
Ça existe dans cette scène, par exemple, où elle se joue un peu de la naïveté de la petite et elle lui dit qu'on va tuer les animaux à la main.
Ouais.
Ça existe avec le cheval, ça existe avec l'agneau qu'elle porte dans les mains, cette fameuse Rosemey, et elle parle de l'agneau en singeant une parole religieuse.
Mmh.
C'est quelque chose qui est assez présent tout au long du film. La question religieuse, le petit pendentif du père, mais aussi la croix qu'elle remet sur la table de nuit, le godemichet qui succède tout de suite à la croix dans le tiroir de la mère, comme s'il y avait vraiment quelque chose comme ça entre la bonne morale et puis toutes les déviances, quoi.
Oui, bah c'est ça. C'est exactement ça. Et puis ça fait exister un petit peu le personnage d'Albino, dont on se dit que on sait de lui qu'il est portugais,
brocanteur,
ferrailleur et chrétien.
Qu'est-ce que ça raconte pour vous dans ce film-là ?
Ben ça raconte que peut-être qu'elle est allée à la messe, parce que cette phrase qu'elle dit, petit agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est un moment de la messe. Et peut-être qu'elle y est allée petite et qu'elle a mémorisé un certain nombre de choses et que ça existe en elle.
Et que ce serait quoi, une sorte de première piste vers ce fameux bien et mal, vrai et faux, qui sera ensuite amené non pas par la justice de Dieu mais par la justice des hommes ?
Oui, c'est-à-dire que la justice des hommes, à un moment ou à un autre, se rapporte à la justice de Dieu. Donc, la question du bien et du mal, je ne sais pas exactement qui la pose.
Dans le film, vous voulez dire ?
Non, je veux dire en général. Dans le film aussi, mais en général, oui. C'est une drôle de question.
Et c'est des grandes questions comme ça qui agitent l'écriture des scénarios ou la manière dont vous vous lancez dans des projets de films. Je pose pas complètement cette question au hasard, dans la mesure où vous avez une formation de philosophie et que
c'est vieux,
mais ça doit laisser des traces, comme peut-être cette jeune fille qui a peut-être fréquenté la messe fut un temps, Christine Doré, je ne sais pas. Comment est-ce que vous faites justement s'incarner des grandes questions comme ça dans l'écriture d'intrigues?
Ben, je les cherche pas, en fait. Mmh. C'est que à un moment ça apparaît, alors je les utilise. Mais moi j'écris que des trucs très prosaïques. Et puis quand je vois percer quelque chose, qu'on peut-être une ligne, qu'on peut tracer un peu plus loin, je la prends. Mais je ne cherche pas à incarner des idées dans le scénario.
Vous les constatez.
Oui, voilà.
D'ailleurs, vous parlez de lignes, vous écrivez aussi que vous êtes inspiré, on n'en a pas parlé, d'un fait divers
oui.
pour écrire cette histoire-là, et qu'en fait, vous l'avez beaucoup retravaillé en tirant des lignes qui vous intéressaient. Comment ça s'est fait, cette traduction entre quelque chose que vous croisez, d'ailleurs, où, sous quelle forme vous avez croisé ce fait divers ?
Faites entrer l'accusé.
Une célèbre émission de France Télévisions, c'est ça, France 2, non ?
Ouais. Ça passe un peu sur toutes les chaînes maintenant.
Ah oui, bon, j'imagine. À mon époque où j'avais la télé, c'était sur France 2.
Ouais. Et donc
bon, c'est une émission de faits divers.
C'est une émission formidable. Et enfin, qui a eu plusieurs moments. Et en fait, cette histoire, c'est deux faits divers qui sont mêlés autour du personnage du fils. Donc je les ai désembrogliés, désemmêlés. Et puis. L'histoire dans la réalité, qui se passe pas du tout dans un paysage comme ça, dans une région comme ça, non. L'histoire s'est déroulée sur 8 ans. C'est-à-dire que pendant 8 ans, personne n'a réclamé, d'une façon ou d'une autre, ce pauvre albino, enfin, qui s'appelle autrement. Personne n'a demandé après lui. Et c'est la gamine, avec une sœur, puisqu'il y avait non pas 2 enfants, mais 3 enfants, qui a œuvré pour arriver à faire surgir la vérité et à retrouver cet homme mort depuis 8 ans. Tout a été considérablement simplifié, parce que au cinéma, il faut simplifier pour y voir clair. Mais ce qui m'avait motivée au début, c'est vraiment la vraie Rosemey, qui dans l'émission Faites entrer l'accusé a 27-28 ans, donc c'est pas du tout pareil, et qui est, j'aime bien dire, une grande vivante. Elle a un regard incroyable de quelqu'un qui connaît le prix de la bataille.
Mmh. et qui l'a livrée.
Oui.
Comme votre personnage.
Oui.
Qui dit, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est pour dire ce que j'avais à dire.
Oui.
On a assez peu parlé du tournage en tant que tel. On va écouter le réalisateur Jacques Doyon raconter ses méthodes.
Je pense qu'il n'est pas bon d'essayer de savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va faire. Je crois qu'une scène doit pousser une autre. Et au tournage, de la même manière, je suis contraint, et c'est une belle contrainte, de tourner de la chronologie. Si je ne tourne pas la chronologie, je ne vois pas le film avancer, je ne vois pas vivre, mener sa vie. Et je peux un petit peu, quand même, faire en sorte qu'il mène sa vie un peu différemment. Donc, en fonction de ce que je vois, de comment les scènes se font, la musique peut un petit peu, évidemment, se transformer et doit se transformer. J'ai tendance à tourner des plans longs, des plans séquences, et là, c'est la même chose entre le jeu d'un acteur découpé de façon permanente et le jeu d'un acteur qui joue toute la scène. On a plus de chances d'atteindre un peu de grâce dans un plan séquence que de se dire que cette grâce, on va la trouver au montage avec tous ces petits plans qu'on va arranger.
C'est la voix du réalisateur Jacques Doyon au micro d'Arnaud Laporte en mai 2022 sur France Culture dans Affaires culturelles. Christine Dory qui parle d'un tournage dans l'ordre des scènes, du rapport au plan séquence. Comment vous travaillez ?
Bah, pas comme ça, parce que le film est... Moi, j'ai des contraintes de production. Là, il parle de contraintes artistiques. Garrel aussi tourne comme ça dans l'ordre. C'est super. J'aimerais bien.
Vous aimeriez bien ?
Bah oui. Forcément, pour la raison qu'il invoque, c'est-à-dire que ça permet de suivre le mouvement du film qui est en train de se faire et de le regarder et de le suivre. Tandis que quand on tourne avec je tourne pas dans un désordre absolu parce que le premier assistant, il sait que j'aimerais tourner dans l'ordre. Et donc, on tourne au maximum dans l'ordre, mais avec beaucoup de contraintes.
Quelles sont-elles pour les gens qui se figurent pas du tout ce que c'est qu'un tournage de film de fiction?
Mais les contraintes, ça peut être que l'acteur n'est pas libre. Ça peut être que il faut absolument tourner tel décor à côté de tel autre parce qu'il faut que ça rentre dans une seule journée et donc il faut que ce soit à moins de 10 km. Toutes sortes de raisons matérielles qui tiennent à l'organisation pratique du temps, du tournage. Voilà, donc moi, j'ai pas le loisir de tourner absolument dans l'ordre. Mais il y a quand même une script et on travaille, et c'est-à-dire qu'on se souvient de ce qu'on a fait et on essaye de quand même rattraper un petit peu cette chose regrettable qui est qu'on est obligé de tourner dans le désordre.
Est-ce que ce serait cet idéal de tourner dans l'ordre, comme le dit Jacques Doyon, l'idée de pouvoir voir naître une matière en l'observant, en influant dessus, en pouvant se dégager finalement de ce qu'on a éventuellement écrit,
bien
en
sûr.
Voyant juste comment la mayonnaise prend, quoi.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça me fait envie. Je me sens encore un peu immature à cet égard. J'aimerais arriver à cette liberté. Mais ça veut aussi dire produire les films autrement.
Ouais.
Et je sais pas si je suis capable de...
C'est-à-dire, c'est intéressant.
Ben, produire les films autrement, ça veut dire avec moins d'argent. Et je l'ai pas vraiment fait. Enfin, si, sur mon premier film où on a fait un film d'une heure avec l'argent du court métrage. Donc, mais je pense qu'il faut inventer des manières de faire.
Plus légère, quoi.
Ouais, plus légère. J'ai pas encore vu Trenque Loken, là, le film argentin. J'ai très très envie d'aller voir dans la librement. Complètement librement. Alors, je dis pas que je n'ai pas été libre. Je dis simplement, dès qu'on est dans l'industrie, voilà, il y a les contraintes de l'industrie.
À suivre alors. Merci beaucoup. La fille d'Albino Rodrigues est en salle ce mercredi 10 mai. Merci Christine Dory.
Merci beaucoup. Thank you.
sais qu'un jour ça va se finir sur un dance floor ou une bicyclope. Pas tant de pensées au sinistre. T'inquiète à mort, je prendrai pas ce virage. Il me reste plus grand chose dans mes poches que d'air mort et un ticket de bus. Mes actions coûtent cher. Pas grave, j'ai décidé de miser plus. Je traîne des filles comme si j'étais une sale gosse. Je crois que je vais garder ce truc toute ma vie. Voir les gens dans la mer, je trouve pas ça drôle. Y'a que dans mon cœur qu'il y a de la magie. Quand j'étais petit, je m'étais persuadé qu'on pouvait tout soigner avec une chanson. 10 ans plus tard, j'ai compris qu'on réglait les problèmes et les drames avec une rançon. Je me sens beaucoup moins seule dans le boucan. De toute façon, j'ai plus de plaisir, plus de souffrance. Je me sens beaucoup moins seule quand le loup chante. Passons, je vais pas mentir, je veux plus faiblir. Mon cœur n'est plus ça a l'air. Oh yo yo, je pleure dehors, il pleut. J'avais de précieux, la vie d'adulte c'est pas terrible. Avec toi c'est mieux que des chansons d'amour dans ta playlist. Je mens jamais, tout est vrai. Je travaille jamais pour des fraises. Je suis pas mal chanceuse. Je grossis juste toujours les traits. Moi j'ai que des cœurs dans les yeux. Un tout petit diable sur l'épaule. Ça fait 10 ans que je suis anxieuse. Moi faut juste que je me repose. J'ai attendu tellement longtemps. Solo planqué au fin fond de ma grotte. À l'affût du moindre mouvement. Un jour viendra, tu seras derrière ma porte. Je me fais même pas de mal à moi-même. Je veux pas faire du mal aux autres, c'est pareil. Je fais que penser à quand je vais disparaître. Je suis personne pour manquer à la planète.
C'était Élise Le et Ludovic Auger au son ce soir à la réalisation Félix Levaché. Un grand merci à toute l'équipe de Par les temps qui courent, Camille Petiot, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent. Pourquoi pas, ce serait vraiment une bonne idée, vous abonner au podcast de l'émission via l'application Radio France et pourquoi pas encore au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée sur France Culture.